Vous êtes sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com et vous écoutez Ménage-toi Simone.
Ah, les bonnes femmes!
Tu préfères avoir tes fesses que ta gueule. Ils sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une autre de vos petites putes asiatiques? La mienne est morte.
Ménage-toi Simone.
Ménage-toi Simone, c'est l'émission sur Radio Campus, réalisée par le réseau de Simone, et qui traite des égalités entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sixième numéro, une sixième émission, la dernière avant la pause estivale, et je me retrouve de nouveau avec quatre personnes, quatre membres du réseau. Aujourd'hui, on a Anaïs d'abord.
Bonjour, aussi. Je m'appelle donc Anaïs,
oui, vas-y.
Et j'ai 27 ans, et il y a longtemps, j'ai fait un volontariat au Bureau Information Jeunesse sur l'égalité femmes-hommes. Voilà.
On a aussi Ophélie.
Bonjour, donc moi c'est Ophélie, j'ai 23 ans et je suis volontaire aussi en service civique sur une mission égalité femmes-hommes à la Ligue de l'enseignement.
Mmh. On a Mathis.
Bonjour, moi j'ai 10 ans, je suis le petit frère d'Ophélie et bah, c'est la première fois que je viens dans un studio.
Génial.
Découvre la radio.
Et bah bienvenue, on a également aussi Romane avec nous.
Bonjour, donc moi c'est Romane, j'ai 21 ans et je suis volontaire en service civique à la Ligue de l'enseignement. Et je suis le binôme d'Ophélie sur la mission Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Et quant à moi, je suis Merlin, 23 ans, animateur depuis le début de cette émission. Et voilà, j'apprécie la radio. Et voilà. Je sais jamais comment conclure ma présentation. C'est pas grave. On y va, donc début de l'émission, début de notre émission. Cette émission qui va, pour le coup, officiellement pour la première fois durer 1h30, 90 minutes, pour notre plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir aussi, on l'espère. On commence donc juste avec, on a la même trame mais avec une façon un peu plus rallongée, on va un peu moins speeder sur des trucs où ça discute beaucoup, où on a des choses à dire. Toutefois la même trame, ça commence toujours par des actualités donc depuis le mois dernier, les actualités concernant l'égalité femmes-hommes, l'avancée des luttes féministes, etc. On a chacune une actualité du coup à apporter, à présenter. Qui souhaiterait commencer?
Moi je veux bien commencer.
Vas-y Ophélie.
Alors moi je vais vous parler de Nicolas Grégoire et de son gros tollé sur Twitter. En fait Nicolas Grégoire, alors je ne connaissais pas du tout cette personne, il a travaillé pour François Bayrou, soi-disant. Et il a écrit un livre sur justement tous les dessous de la campagne, enfin tout ce qui se passe en politique, tout ça. Sauf que dans son livre, à un moment, il écrit un passage que je vais vous lire. « Tard un soir, je m'introduis dans la blonde. Elle est sèche comme du papier de verre, les yeux mi-clos, d'un ton génial de ceux qu'on réveille. Elle me dit non, non. Elle secoue mollement la tête, passe ses bras sous l'oreiller. Je continue à pousser. Non, non, non. Rien à faire, le rapport est refusé. Alors j'éjacule froidement. » Comme dans un sac. Sans un mot, elle se lève pour s'essuyer. Un sentiment de honte s'empare de moi. Et en fait, j'ai voulu vous parler de ça parce que c'est totalement culture du viol. C'est-à-dire que le mec raconte ça dans son livre et après s'étonne que tout le monde lui dise que c'est un viol. Alors il s'est défendu en disant « Bah non, c'est pas un viol. » Et puis quand bien même le rapport était forcé, de toute façon, on était en couple. Spoiler alert, le viol conjugal, c'est 20 ans de prison au lieu de 10. C'est une circonstance aggravante. Et ce qui m'a fait bien rire dans sa défense, c'est qu'il dit s'être entouré de juristes pour parler de ça et que ces juristes lui auraient dit « Non, mais c'est pas un viol, t'as pas de souci à te faire. » Et en fait, si, donc il y a plein d'avocats qui se sont emparés de la question sur Twitter et qui l'ont dit qu'il risquait jusqu'à 20 ans de prison. D'après ce que j'ai vu, alors j'ai pas réussi à trouver d'infos suffisamment récentes sur où en est l'affaire, mais je sais que la police nationale a été saisie de l'affaire, notamment par la brigade de ce qui se passe sur Internet. Et on verra bien où ça va mener, mais j'espère en tout cas que ça mènera à une condamnation. Parce que c'est quand même un viol qu'il décrit, même s'il dit que c'en est pas un.
C'est ouf quand même. Enfin, la décontraction du truc. Moi, j'étais pas allée voir, t'en avais parlé sur la conversation secrète du réseau Timon, mais j'étais pas allée voir parce que je sentais que ça allait me péter le moral. Et effectivement, c'est assez badant.
Oui. Tout à fait.
On était ensemble au travail quand on a vu cette affaire et tous les tweets qu'il y avait eu par rapport à ça. Et on était, choqués par la décontraction du gars en mode non, non, c'est pas un viol.
Et en plus,
non,
il l'a pas dit
elle
genre.
A dit non, mais c'est pas un viol.
Puis il l'a pas dit genre sous le coup de, enfin dans une émission, dans une discussion, il l'a écrit dans un livre qui a été relu par plein de personnes. En plus, personne lui a dit à un moment donné. Là, je pense que c'est un peu touchy quand même ton truc.
Mais c'est ça qui est ouf, c'est que le, d'une part que le mec, que l'auteur soit à des kilomètres de savoir et de comprendre la définition d'un viol, et d'autre part que personne lui ait dit. Enfin voilà, dans sa défense, il a aussi cité des personnes qui semblent être des personnes engagées dans la cause. Et voilà, enfin genre. Je sais pas ce qu'a fait prétexte de « Ah bah non, c'est cool, on va le garder dans le livre si c'est une démarche artistique défendue ou quoi », mais y a plein de, enfin, tout le monde a dit « Ok, bah ok ». Alors que textuellement, c'est bien un viol qui décrit, quoi.
Dans sa défense, il a dit qu'il l'avait fait relu à des grandes féministes de Twitter, alors je sais pas du tout qui sont ses contacts, mais personne lui aurait dit qu'il y avait un souci, et alors si, dans sa défense, il avait dit en même temps sur Twitter...
Attention, théorie du complot dans 3, 2, 1...
Alors pour le coup, non, pas théorie du complot, mais plus... Nous allons contacter la femme en question. Elle sera effarée d'apprendre qu'on dit que je l'ai violée. Nous verrons ensuite ce que vous trouverez à dire.
Ah, merci de parler pour elle, ça fait plaisir.
Oui, c'est ça. Et alors, il faut juste préciser aussi que les faits ont eu lieu il y a 22 ans, 22 ou 23 ans. Donc, c'est prescrit. Donc, est-ce que, du coup, il a gardé ce passage dans le bouquin exprès parce qu'il savait qu'il y avait prescription ou pas? Ça, je ne sais pas.
Et que ça allait sans doute buzzer et peut-être faire vendre son livre plus?
Peut-être.
Parce que bon, un livre sur les dessous de la campagne de Beyrouth, je pense que, bon, sans vouloir être méchante, je pense que ça se vend bien, quoi.
Mais après, ce mec se définit vraiment comme lanceur d'alerte, enfin, dans sa ligne éditoriale de ce bouquin, il se définit vraiment genre, je suis un lanceur d'alerte, je protège la démocratie, bon, jamais entendu parler de ce mec avant, perso, mais...
Non, moi non plus.
Mais bon,
et puis aussi, est-ce qu'il va retomber dans l'anonymat? C'est bien, ça?
Très vite, j'espère.
Oui, parce que ça s'est vraiment passé.
Oui, petite intervention de Mathis. Oui, c'est en fait tout ce qu'on raconte dans l'émission, c'est on se base sur des faits, tout ce qui s'est passé. Donc là, on raconte du coup tout ce qui se sont passés récemment.
Ah. Et donc là, c'est un passage d'un livre qui a été publié récemment. On passe à autre chose, peut-être quelque chose d'un peu plus joyeux.
Oui, allez, je veux bien prendre le relais. Moi, je voulais
joyeux,
vous parler de trop bien, de qui motive et tout. Hier, il y avait une grande grève féministe historique en Suisse. Donc voilà, ça c'est cool déjà. Alors en fait, cette grève faisait écho à une grande grève qui avait déjà eu en 1991, qui avait réuni un demi-million de participantes. Et donc les femmes avaient à ce moment-là dénoncé l'absence de mesures concrètes pour l'égalité et l'inégalité salariale. Voilà, et comme il y a eu dernièrement la vague MeToo, etc., la nouvelle génération a voulu poursuivre le combat et faire une nouvelle journée de lutte, en sachant qu'en Suisse, les femmes touchent en moyenne environ 20% de moins que les hommes, et à conditions égales, notamment formation et ancienneté, l'écart salarial est encore de près de 8% selon le gouvernement. Donc du coup, il s'est placé plein de trucs, il y a plein de parlementaires qui ont arboré des badges féministes, sont venus habillés en violet. Voilà, donc il s'est passé plein de trucs en Suisse. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose en France, ce serait cool. Voilà.
Pour le coup, elles ont aussi reproduit le fait de s'arrêter de travailler à 14h53, 54, je sais pas. Enfin, c'est symboliquement l'heure à partir de laquelle
on
les hommes
gratos.
Et les femmes sont plus payés également. Et du coup, ça a été pas mal suivi et ça a fait une grosse journée de grève puisque, comme ça a été suivi dans tous les secteurs, plein de femmes dans tous les secteurs se sont arrêtées de travailler. Donc ça a fait... ça a fait, je pense, du mouvement.
Surtout que je pense que concrètement, si genre en France, toutes les meufs décident d'arrêter de bosser le même jour, je pense que c'est un peu la merde.
Ouais.
Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça.
Et en plus, c'est hyper cool parce que ça a été vraiment repris par les médias du monde entier, cette grève, parce qu'elle fait écho à plein de demandes de plein de femmes dans le monde, je pense, et ce serait cool qu'on suive l'exemple de nos amis suisses.
Alors pour la reprise des médias, moi j'étais très étonnée parce que ça a été repris après coup, mais moi j'ai eu connaissance de cette grève cette semaine sur Twitter, et j'ai regardé un peu, et dans les médias français, personne n'en parlait, et ils en ont parlé que depuis hier, aujourd'hui. Donc c'est pas mal
peut-être. Et puis ça dépend peut-être aussi des canaux d'information. Enfin, je sais que je me renseigne vachement via les réseaux sociaux, très peu par la presse écrite.
Oui, moi aussi, oui.
Et non, j'en avais entendu parler. Après, je suis beaucoup de médias féministes, donc peut-être que c'est un
c'est petit... un peu orienté, mais c'est pareil, hein. C'est pareil, t'inquiète.
Eh ben, en parlant d'avoir été relayé dans les médias, moi je vais enchaîner avec mon actu. Pour le coup, ça va être un peu moins joyeux. Désolé. Je souhaitais parler du happening qu'ont fait les Femmes le jeudi 30 mai. Ça se passait à Paris, ça se passait dans la cour du Palais Royal, donc à l'endroit où il y a l'œuvre d'art qui s'appelle les colonnes de Buren. Et en fait, symboliquement, il y a 60 Femmes. Enfin, il y avait un peu plus de 60 militantes sur le coup, sur l'action. Mais symboliquement, il y a 60 Femmes qui sont montées, chacune d'elles, sur une colonne de Buren. Et forcément, c'était une action des Femmes, donc elles étaient le torse dénudé. Et en fait, elles ont sur chacune d'elles écrit sur leur torse le prénom et la manière dont l'une des 60 femmes, le jour du jeudi 30 mai, l'une des 60 femmes est morte depuis le 1er janvier 2019 en France, sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Donc voilà, c'était une action des Femmes pour rendre hommage à ces 60 femmes qui sont mortes et aussi pour dénoncer la responsabilité de l'État aussi, où, parce que justement il y a trop peu de choses qui sont mises en place et en fait tous ces féminicides depuis le début de l'année sont assez tus et très peu pris en compte. Et donc voilà, il y a eu pas mal de vidéos, pas mal de photos aussi, ce qui permet de bien se rendre compte combien ça fait 60 femmes, puisque voilà, là il y avait une femme debout sur chacune des colonnes et donc on peut se représenter, enfin l'action a été forte pour moi de ce point de vue-là, parce qu'on se rend bien compte de ce que ça vaut, de ce que ça représente 60 femmes. Et puis également, elles ont dit des slogans tels que « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente », ce qui résonne quand même très fort dans leur action et dans le message qu'elles veulent porter. Et puis également, le fait d'avoir comme une forme d'épitaphe, en fait, la manière dont les femmes sont mortes, on peut voir que il y en a plusieurs qui sont mortes par balle, plusieurs qui ont été défenestrées, poignardées, battues à mort, etc. Donc c'est très très choquant et très très pour le coup je trouve que l'action est réussie pour dénoncer quelque chose qui est vraiment vraiment pas drôle, vraiment pas joyeux. Et donc voilà, ça c'était jeudi 30 mai et au moment où je vous parle, donc samedi 15 juin, on en est à 64 femmes mortes en France depuis le 1er janvier 2019 sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon.
Mais du coup, on n'est pas en train d'augmenter la stat d'une femme tous les trois, enfin on, vous avez compris ce que je voulais dire, mais est-ce que la stat d'une femme tous les trois jours est pas en train d'augmenter?
En 2018, il y a 120 femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint ou de leur compagnon. Donc du coup, on est déjà à la moitié et on est en juin. Donc ouais. En soi, non, ça...
C'est
entre guillemets, ça revient au même. Mais c'est, okay. Tu me dis 64 femmes, Merlin. Nous, ouais. on a regardé justement parce qu'on a mené une action sur au quart de tour. Et on était à 62 femmes le troisième jour de quart.
Donc c'était... Attends, je vais le dire.
C'était la semaine dernière.
C'était la semaine dernière. Donc du coup, depuis la semaine dernière, il y a deux autres femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint.
Voilà, en une semaine exactement.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Et je voudrais dire un petit mot parce que il y a un collectif féministe bénévole qui s'appelle Féminicide justement, qui recense chaque femme qui est assassinée sous les coups de leur conjoint ou de leur compagnon. Ils font un travail titanesque. Elles font d'ailleurs un travail titanesque en lisant la presse régionale, en lisant la presse nationale pour recenser tous les cas de féminicide, chose qui n'est pas faite entre guillemets au jour le jour par l'État. Donc franchement, c'est un collectif que j'admire et à qui on doit beaucoup, je pense. Et en plus, ils font quelque chose que je trouve extrêmement émouvant, c'est qu'ils font tout un post Facebook sur la femme, mais pas la femme en tant que victime, mais la femme, ce qu'elle aimait dans la vie... Voilà, cette femme-là, en tant que telle, c'était cette personne. C'était pas une victime, c'était cette personne.
Exact.
Voilà.
Donc ça s'appelle Féminicide.
Féminicide.
On trouve ça sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Ouais.
Et il y a aussi Titu Lecoq qui a un article sur Libération qui est mis à jour. Dès qu'il y a une nouvelle femme qui meurt, elle met aussi un petit résumé de ce qui s'est passé de la femme en question, de suivre aussi un petit suivi statistique. Mais je ne connaissais pas le collectif dont tu parlais. J'irai voir.
Bien, merci. Est-ce que Roman, tu veux enchaîner avec ton actualité à toi?
Alors, mon actualité à moi, elle est un peu plus petite que les Femmes ou que la grève en Suisse, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est une action dont on peut être fier. Avec Ophélie, nous faisons partie d'une association qui s'appelle Rêve, donc le réseau engagé des volontaires. Et cette année, grâce au soutien de Rêve, nous avons pu mener une action sur Au quart de tour, donc le célèbre festival Tourangeau. Et selon les sensibilités de chaque volontaire de l'année, on décide d'un thème. Cette année, on a décidé de travailler sur le harcèlement et les agressions sexuelles en milieu festif. Donc pour alimenter ces animations, on a décidé de faire donc une... On l'a appelé comment déjà, Ophélie ? Pêche ton porc ou pêche ton connard, ça dépend.
Ouais, pêche au canard. Enfin, on a, pêche au connard, pardon. On avait un peu plusieurs noms, on ne savait pas trop.
Pêche au connard, c'est bien.
Moi, je trouve. Je militais pour pêche ton porc parce que je trouvais ça drôle. on avait cette action. Donc, en gros, c'était une espèce de piscine à balles où on piochait des balles, où il y avait des faits concrets.
Il y avait les... donc les faits, ça partait des condamnations, enfin les faits divers en gros, et du coup les personnes devaient choisir entre trois condamnations, laquelle était la bonne suivant les faits. Il y avait les situations concrètes de harcèlement où la personne devait dire si pour elle c'était du harcèlement ou pas. Et en dernier, on avait des petites questions autour de la législation française pour faire réfléchir les personnes.
Ça. Ensuite, pour se mettre dans le thème d'Ocar, on a pris des fake news autour des agressions, du harcèlement, du consentement, de certaines affaires qui avaient eu lieu en France et en Europe. Et on a également eu toute une grille avec des panneaux photos, des affiches réalisées par des volontaires sur justement ce thème agression et harcèlement festival. Et le clou de notre stand, nous avions une rêve mobile. Donc c'est-à-dire un caddie qui était pimpé de manière incroyable, en fait, qui nous permettait de porter la parole des gens, de faire mur d'expression, enfin caddie d'expression. Et ça permettait vraiment de discuter, d'échanger avec les gens, et les gens étaient extrêmement heureux qu'on soit là. Je m'attendais pas à un tel engouement, en fait, autour de notre stand, mais il y a beaucoup de nanas qui sont venues me voir en me disant mais c'est génial, en fait, parce que les gens ne se rendent pas compte que la main au cul en festival, c'est hyper courant.
D'ailleurs, oui. Je sais pas si tu l'as dit, mais votre stand servait aussi un petit peu de safe zone en cas d'agression.
C'est
en
vrai,
cas...
ouais. on l'a pas dit. Oui, en gros, on avait défini notre stand comme safe zone, c'est-à-dire que si une personne se sentait agressée ou menacée au sein du festival, elle pouvait très bien venir sur notre stand et on restait avec elle, avec cette personne, jusqu'à ce que ses amis arrivent ou que la Croix-Rouge arrive ou que la sécurité arrive. Donc, je trouve que c'était une belle action dont on est très fiers au sein de Rêve. Et voilà. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à dire, ma binôme ?
Oui, juste rajouter que du coup, on refera la même action sur Terre du Son, donc le week-end du 12, 13, 14 juillet, je crois. Mmh. Donc, ce sera sur le village gratuit. Donc, si vous voulez passer nous voir, ce sera avec grand plaisir.
Grave, c'est trop bien ce que vous avez fait.
Oui, je pense que les retours sont très éloquents sur la pertinence de ce genre d'action en festival.
Et puis comme dit Romane, la main au cul en festival, c'est... Enfin, c'est une épuisante banalité, comme souvent. Mais même quand tu t'attends dans la file pour aller prendre une bière au bar, les mecs ils se collent, enfin bon, c'est... Bref.
C'est très courant, oui. Et puis en fait, grâce à la rêve mobile, enfin, grâce aux porteurs de parole, les hommes qui lisaient les témoignages ou les phrases, etc., ils étaient « oui, mais j'y avais pas pensé, en fait, que c'était aussi courant ». Et on a eu plein de témoignages, pas forcément en festival, hein, mais aussi dans les bars, dans des soirées quelconques, en festival, évidemment. Enfin, bon, on a eu beaucoup de réactions vis-à-vis de ce qu'a dit.
Moi, je me souviendrai d'un moment où il y avait un groupe de quatre, donc il y avait trois femmes et un homme, et du coup, ils devaient discuter si la situation, c'est du harcèlement ou pas. Alors la situation, en l'occurrence, c'était une rencontre entre une femme et un homme qui se passe au début du festival, qui se passe bien, ils finissent par échanger leur numéro, et finalement, cet homme continue d'envoyer des messages alors que la femme ne répond plus et continue même de... Enfin, il passe en dick pic, sexto, tout ça. Et en fait, donc les trois femmes étaient en train de dire « Bah si, c'est du harcèlement, enfin on n'a pas demandé à recevoir ça. Dans le cas concret, on ne répond pas. » Donc à un moment... Enfin voilà. Et l'homme disait « Bah non, après, ça dépend. Est-ce que ça a été initié, tout ça ?» Et en fait, à force de discuter avec ses amis, parce que c'était un groupe de quatre amis, bah il s'est... Je pense rendu compte de la situation parce qu'il était le seul dans son truc. Bah non, je vois pas les choses comme ça, et à discuter. Ouais, c'était très intéressant comme échange. Et pour ce
mais
genre
surtout,
de choses.
Surtout que les dick pics. Enfin, c'est à quel moment ? Enfin, pourquoi ?
Oui, oui, oui.
Qui a eu cette idée ? Pourquoi ? Encore un message, tu vois, je peux l'entendre, mais il me dit qu'il fait un tuto de ta bite, bref.
Bah, c'est l'évolution des sextos, je pense que si les deux personnes sont consentantes à s'échanger ce genre de message.
Ouais, mais bon, faut quand même que t'aies mal compris le contexte ou ce que la personne te renvoie pour... Enfin, je sais pas, bref.
Ouais. Bien, merci pour votre engagement, votre action sur Au quart de tour, et puis on vous souhaite donc un aussi grand succès donc sur Terre du Son, donc avec Rêve, le réseau engagé des volontaires.
C'est ça.
L'acronyme. Ok. Merci beaucoup pour vos actualités. On va enchaîner sur une première pause musicale avant de passer à la discussion. Et donc là, la pause musicale, ça va être Flesh Love avec leur titre Sisters.
We are like a cake. We are so many different ingredients. And there will always be forces within our eyes pressuring us to pluck one particular piece out of that cake and say, hey, see the truth? That's me. Don't do it. It's dangerous. Sometimes it's near the easy of it. It's dangerous.
No matter how many times you will doubt, we'll be there for you. No matter how many times you will fall, we'll be there for you. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Whenever you will shine and succeed, we'll be there too. When we all stand together, the best bunch of us. We are sisters. We are sisters. We are sisters. We are sisters. With our community, there is no liberation, but community must not mean a shame of our differences, nor the pathetic pretense that this difference is not exist. So now wake up and
vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. C'est toujours Ménage-toi Simone, l'émission de juin, la dernière avant une petite pause estivale bien méritée, et on vient d'écouter Flesh Love avec leur titre Sisters. On va passer donc à la partie discussion de notre émission. Donc on choisit un thème et puis on le décrit, on le décortique, voilà, on fait une discussion un peu plus... un peu plus à parole ou à bâton rompu, à parole ouverte sur ça. Et aujourd'hui, pour cette émission, on a choisi, en fait, tout est parti d'une couverture du magazine Valeurs Actuelles, Et pour en parler plus généralement de la représentation du féminisme dans les médias, on en parlait dans les actualités justement sur comment la grève féministe en Suisse a été relayée dans les médias. Et bah là justement à partir de cette couverture de Valeurs Actuelles, donc qui dressait le féministe bah, un petit peu comme une menace, comme un bouleversement qui allait vraiment déranger et beaucoup causer de problèmes. On voulait se dire voilà qu'est-ce que c'était l'image de la femme aujourd'hui, l'image des femmes aujourd'hui et du féminisme en général. Est-ce que c'était encore dépeinte comme de méchantes sorcières castratrices?
Oui.
Voilà. Je propose.
Spoiler.
Je propose d'ouvrir la conversation comme ça. Est-ce que quelqu'un, déjà, je vois Anaïs, tu as
oui.
une
je l'ai sous les yeux.
Est-ce
je...
que tu peux nous la décrire?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, précision, moi, quand j'ai vu ce truc-là, j'ai cru que c'était une blague, en fait, parce que vraiment, c'est très gros. Alors, la une ressemble à quoi? Ils ont repris en fait l'image de Rosie la rifteuse. Peut-être que ça vous dit rien comme ça, mais c'est une image féministe assez connue. C'est une femme en bleu de travail qui a le poing levé et un foulard rouge sur les cheveux. Voilà. Et du coup, la une titre donc la nouvelle terreur féministe. Action violente, théorie du genre, PMA, parité, écriture inclusive, enquête sur une inquisition. Voilà. Donc autant la nouvelle terreur féministe, bon. Ça aurait pu, enfin, mais la nouvelle Inquisition, vraiment. Bon, bah, bref, on va en parler, mais moi je ris.
Et moi j'ai essayé de chercher l'article en question. Bon, malheureusement, je ne suis pas abonnée à Valeurs Actuelles,
oh
donc j'ai pas
là
pu
là
le lire.
Quelle
tu n'as pas envie de donner des sous à Valeurs Actuelles?
Aussi, mais j'aurais été très curieuse de lire en intégralité cet article parce que le début, il commence juste comme ça. Alors le titre, c'est « La pieuvre des nouvelles inquisitrices, enquête sur les réseaux de féministes ». Et alors le sous-titre, qui est juste merveilleux, « Elles sont militantes, se disent journalistes et sèment une forme de terreur dans la vie médiatique et politique, enquête sur le féminisme français contemporain, coalition des aigreurs ». Je trouve ça merveilleux.
C'est
magnifique. Le féminisme à l'aigreur, c'est...
Ayez
super
peur.
Bah, et ils sont partout.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que ça reprend tous les clichés sur le féminisme. Enfin, j'ai fait une chronique il y a quelques temps, comment répondre à tonton relou sur le féminisme. Et notamment, il y avait ces trucs de hystérique mal baisé, aigri machin. Et en fait, là, c'est exactement ça, quoi. Mmh. Ils reprennent que le côté aspect lutte violente. Et enfin, voilà. Renouvelez-vous, les gars, au bout d'un moment. Parce que là.
Moi, ce que je trouve merveilleux aussi, c'est qu'ils parlent que des femmes. Alors que un homme peut tout à fait être féministe. Enfin, quand on prend le terme féminisme, mais c'est vouloir accéder à l'égalité parfaite dans un contexte culturel, politique, économique, social entre les deux sexes. Donc du coup, un homme peut tout à fait être féministe. Du coup, Merlin, t'as rien à faire ici, va-t'en.
Mais c'est surtout en fait l'idée, l'image qu'on se fait des féministes dans les médias, c'est souvent en effet. L'avis qu'ont des hommes, et qu'ont des hommes souvent un petit peu réfractaires à ces mouvements-là, l'avis qu'ont des hommes sur les féministes et ce que c'est le féminisme, à vrai dire, quoi. C'est une image, voilà, qui est forcément teintée de ce que c'est la représentation médiatique à l'heure actuelle. La représentation médiatique à l'heure actuelle, c'est bien plus des hommes blancs, un peu vieux et tout. Et donc, voilà, l'image qu'on va avoir du féministe, la représentation qu'on va avoir des féministes dans les médias, ça va être leur avis, l'image qu'eux, ils ont avant tout, quoi. Et voilà, on leur laisse pas la place ni la chance de se dresser, de se faire une image elles-mêmes, par leurs actions et par le combat qu'elles défendent, quoi. Qu'elles défendent, bien sûr. Je te rejoins, Romane.
C'est ça, puis là encore, je trouve que ces derniers mois, voire ces dernières années, bah, un peu depuis le mouvement MeToo Balance ton porc, je trouve qu'il y a déjà une sorte de... J'ai perdu le mot. Un effort de fait... au niveau des médias français, pour parler un peu plus du féminisme, alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était totalement occulté, et c'était même très mal, comme tu disais Merlin, très mal expliqué, et du coup tout le monde se faisait ses idées, que là je trouve qu'on commence un petit peu à parler un peu plus. Là j'ai vu récemment des articles sur l'écoféminisme, alors que j'en avais jamais vu nulle part, et c'est vrai que... La tendance commence à s'inverser, même si c'est pas encore tout à fait ça dans certains journaux. Mais on peut saluer cet effort qui est un peu fait.
Je trouve que ouais, la tendance se creuse beaucoup entre les médias entre guillemets traditionnels qui font des efforts pour être plus inclusifs, même si des fois c'est raté, on est bien d'accord. Et les journaux, on va pas viser une certaine politique en particulier, mais...
Genre Le Figaro et Valeurs Actuelles, par exemple.
Bah, par exemple, oui, je sais pas, des journaux qui sont de droite, qui sont voire d'extrême droite, Donc j'ai plus l'impression que le fossé se creuse entre ceux qui veulent absolument rester derrière et diaboliser encore plus le féminisme, l'inclusion, tout ça, et les médias un peu plus traditionnels qui essayent tant bien que mal de se mettre un petit peu modernité, etc. Après, les médias sont aussi en train de se transformer avec les réseaux sociaux, etc. Enfin, ça fait quand même un petit bout de temps que ça se transforme. Donc maintenant, il n'y a plus que... Enfin, il y a aussi, par exemple, sur Instagram, un média féministe que je suis énormément, qui s'appelle Les Glorieuses, qui là est complètement axé inclusivité et féminisme. Et voilà. Donc en soi, maintenant, je trouve que c'est vraiment très scindé la manière de voir le féminisme dans les médias actuellement.
Et par rapport à ce fossé-là, je reprends ce que tu m'avais dit un jour, Romane, hors radio, tout ça, où justement, t'as une partie de cette population qui est fière d'être contre la bien-pensance, tout ça. Et en fait, bah, c'est... Enfin, moi, ça me fait penser directement à ça quand je vois les...
On est contents d'être des gros relous misogynes.
Mais je pense qu'il y a vraiment une partie...
Je pense qu'il y a vraiment une partie de ça.
Mais vraiment
que... Ah, vraiment. Vraiment, parce que en intervention, enfin là, on s'éloigne complètement du sujet féminisme dans les médias, mais bon, c'est une discussion. Oui. Partons,
on va raccrocher plus tard.
Va-t'en. Mais en intervention, avec Ophélie, c'est un sentiment qu'on a déjà eu, que les gens venaient nous voir quand c'est des interventions qui sont ouvertes, pas quand c'est un certain public, etc. Quoi qu'on a eu une intervention au collège, je n'ai rien dit, je retire ce que j'ai dit. Mais les gens sont parfois très contents de venir nous voir, de balancer leur petite pique en mode tiens. Je te crache à la gueule et après je repars tranquillement dans mon coin.
Pour clarifier, c'est des interventions donc, que vous faites dans le cadre de volontariat service civique.
Dans le cadre de notre volontariat, effectivement. Par exemple, nous avons eu un stand à l'hôtel de ville de Tours.
Oui.
Dans le cadre de l'exposition Il paraît que, qui est une très belle exposition qui va être exposée aux Fontaines cet été, donc qui est la rencontre croisée entre des jeunes de quartier et des personnes un peu plus âgées. Et nous, on tenait un stand sur la discrimination, sur les 25 critères de discrimination inscrits dans la loi. Et à un moment, un vieux, voilà, est venu nous voir et nous a dit « Bah, attends, je te laisse raconter, tu racontes mieux que moi.
» Il a dit « Oui, bah, la discrimination, c'est pas forcément négatif. » Et moi, je pensais qu'il allait nous parler de discrimination positive et du coup que le débat pourrait se lancer sur ça. Et donc, je lui demande dans quel sens, parce que j'étais curieuse. Et là, il me dit, il n'y a qu'à voir l'équipe de France de foot, ils sont pas français, quoi.
Et il est reparti.
Voilà. Et on est resté un peu sur le cul. Enfin...
Les bras en sont tombés. Je les cherche encore.
C'est ça.
Mais non, mais on l'a vu partir fier comme un pan, fier comme un coq, fier comme un pan. Oui.
Fier comme un pan, ça marche bien.
Bah, fier comme un pan. Très, très content de lui, très content de nous avoir dit ça, voilà. Et après, d'autres interventions où les personnes étaient vraiment fières d'être, de pas être bien pensants, c'est vraiment, enfin, c'était des collégiens, du coup, je le vois pas comme un truc comme ça, je vois plus ça comme un petit peu la petite... Voilà, je défie l'autorité, regardez-moi, c'est que je pense aussi qu'on leur a donné un terme à mettre sur leur attitude, c'est qu'en fait, ils étaient homophobes. Mais en fait, c'est qu'ils n'avaient jamais été en contact avec des homosexuels ou ils ne s'étaient jamais posé la question, je pense. Et puis bon, enfin, tout le délire autour de PD, fiotte, blablabla, c'est très présent au collège. Encore un truc à parler, à discuter, parce que ça commence à être très énervant. Et je pense que vu qu'on leur a donné le terme... Et bah, ils se l'ont approprié, et du coup, après, ils nous balançaient des « Ah ouais, moi, je suis trop homophobe et tout. »
Ils revendiquaient.
Ouais, en fait, c'est plutôt le côté... tu parlais de bien-pensance tout à l'heure, c'est limite plutôt mettre en avant « Ouais, on est subversif. » Enfin, tu vois, on est in, et on n'est pas...
Enfin, tu vois, c'est presque plus...
Ouais, c'est ça, voilà. Tu vois, on n'est pas des moutons. On n'est pas des moutons qui sont pour l'égalité. On préfère être misogyne et... Vive le patriarcat.
C'est les ancêtres des trolls, en fait. C'est les trolls avant Internet, c'est ça. Quoi. Quand tu fais une intervention dans la rue, dans l'espace public, bah, les gens, ils te croisent, ils ont leur anonymat préservé, ils savent que tu pourras rien leur faire, donc ils se permettent de lancer des petites piques, d'être cynique, d'être odieux, d'être vulgaire, et puis après, ils repartent, voilà, leur petit bonhomme de chemin, et leur action était juste motivée par d'évaluer ce que tu voulais faire, parce que c'est pas en accord avec leur propre valeur, leur propre opinion, et puis ils avaient pas... ni la force, ni le temps, ni l'envie de débattre. Quoi.
C'est ça.
Et de construire quelque chose de... justement, de constructif, quoi. Faire quelque chose de constructif.
Juste une petite question. Ça veut dire quoi, homophobe?
Alors, bah, c'est une très bonne question. Oui. Homophobe, c'est pour les personnes qui n'aiment pas les homosexuels, donc les personnes qui ont une sexualité qui fait qu'ils aiment les personnes de même sexe. Par exemple, moi je me considère comme une fille et si je suis homosexuelle, je vais aimer une autre fille. Tu vois ?
Il y a beaucoup de mots qui traduisent des discriminations et qui sont construits comme ça, avec en première partie ce qu'on désigne et en deuxième partie le suffixe phobe qui veut dire on en a peur ou on les aime pas ou on est haineux envers eux. Quoi.
Comme phobie quoi.
C'est
oui,
ça.
Bah pour le coup, il y a une petite confusion parce qu'une phobie, c'est une vraie maladie.
D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent qu'il faut arrêter de dire homophobe parce que, en gros, phobe, ça fait référence à la peur et en fait, ces gens-là, ils ont pas peur, ils sont juste intolérants, quoi.
Oui. Ils sont juste haineux.
Ils sont juste cons.
C'est ça.
Oui.
Et moi, je reprends un peu ce que tu disais sur les trolls, sur les réseaux, Merlin. En fait, moi, quand on a dit qu'on allait parler du féminisme dans les médias, je me suis plus axée à rechercher le type médias, réseaux sociaux, tout ça. Et effectivement, les trolls sont très, très, très présents. Alors, c'est pas les personnes que je suis sur Twitter ou sur Facebook. Du coup, j'ai dû aller un peu creuser. Et je suis tombée sur des trucs que j'ai pas du tout compris. Typiquement, je vais vous dire un truc. Donc, c'est une personne qui reprenait sur Twitter une photo avec une femme, du coup, qui était dans une manifestation, et elle avait un slogan sur une de ses pancartes. Donc le mec, parce que c'était un mec, dit « Tu vois, ce que je trouve incroyable avec le féminisme, ça tape des grèves et ça utilise des slogans de fils de pute. Je conçois tout à fait les revendications des féministes, mais ce genre de slogan décrédibilise totalement les propos abordés. » Alors, je vais vous dire le slogan. Est-ce que vous êtes prêts ?
On est prêt.
Le slogan, c'est « Sans Hermione, Harry serait mort au tome 1 ».
Bah c'est vrai. Il a lu Harry Potter ou pas ? Parce que
Mais c'est ça. Et je ne comprends pas du tout, en fait, sa réaction avec ce slogan.
Et donc ça décrédibilise.
Ouais, ouais, c'est ça.
Wow. Bah, ouais, et justement, tu vois, alors moi, je n'ai pas préparé l'émission aussi bien que Ophélie, mais il y a un truc que j'avais noté, c'est que justement, cette différence de traitement, c'est ouf. C'est-à-dire qu'il y a une féministe qui va dire un truc. Et genre, si la personne n'est pas d'accord avec elle en face, va dire, elle décrédibilise tout le mouvement. C'est un truc de ouf, quand même. Genre, c'est un mec qui dit une boulette, on va dire, non, non, on coupe tout lien avec lui, c'est un mouton noir, machin. Alors qu'une féministe dit un truc.
Mais surtout que la plupart des personnes qui disent ça, qui emploient cet argument de « ce que tu fais décrédibilise la cause, décrédibilise le combat, la lutte », c'est pas du tout des personnes impliquées elles-mêmes dans la lutte, quoi. C'est des personnes qui en sont extérieures, voire même opposées, et qui vont dire « Ah, mais non, mais toi, ton militantisme, il est pas assez bien pour la cause. Fais autrement, fais pas comme ça, fais différemment. » Mais quelle est la légitimité de ces personnes-là qui savent comment militer pour une cause alors qu'ils ne la défendent pas eux-mêmes, quoi ?
Bah oui, mais ça, c'est tout le problème aussi des hommes, parce que c'est majoritairement des hommes, même s'il y a aussi des femmes qui sont là-dedans, de dire comment tu dois faire pour faire telle chose.
Ouais.
Et ça s'applique. C'est cette femme est féministe, a décidé de mener sa propre vie avec ses propres convictions. Du coup, il y a toujours des bonhommes pour venir lui dire quoi dire, quoi faire, et que ce que tu fais, de toute façon, ce sera jamais assez bien.
Oui. Et peut-être une influence comme ça aussi, mais pour le coup, moi, j'ai des exemples qui sont issus d'une autre cause militante que je porte, c'est la cause animaliste. Et justement, il y a plein de d'omnivores et des gens qui sont pas du tout motivés pour devenir végétariens ou véganes ou réduire leur consommation de viande, qui vont dire « Ah non, mais les actions dans les abattoirs, ça décrédibilise trop la cause et tout ça, machin. » Tu n'en sais rien, tu ne sais pas ce que c'est.
Tu te tais.
Tais-toi, merci.
Ouais, c'est clair. C'est pareil, genre pour l'écologie, tu sais, genre tu vas mal faire un truc, on va dire ah tu fais pas bien, et tu réponds bah tu tries même pas tes poubelles, toi. Enfin, du coup tu me parles.
T'es qui, wesh.
Juste si on va bien tous dans le même sens, déjà là-bas c'est cool, quoi, mais qu'on vienne pas critiquer les autres dans la manière dont ils luttent.
Ouais, c'est ça. C'est pareil pour la défense des droits des migrants. C'est ouais, faut d'abord s'occuper de nos SDF. Mais tu es dans une association qui s'occupe des SDF. Tais-toi.
Tu ouvres ta porte, tu accueilles des gens.
Tu accueilles des gens, tu donnes de l'argent, tu fais quelque chose. Non, bah tu n'as rien à me dire.
Ah, pour critiquer, il y a du monde, hein, mais pour venir concrètement, il n'y a plus personne.
Bah oui, et en soi, la critique, moi je suis persuadé que ça reste une bonne chose et ça reste important pour toujours veiller à aller dans la bonne direction.
Ah oui, quoi. Bien sûr, mais bon, c'est quand c'est toujours les mêmes qui viennent.
Voilà.
Finit par être.
Et quand une critique est construite, on la reconnaît, alors que quand c'est de l'attaque méchante et gratuite, on la reconnaît aussi.
C'est ça.
Dans le même genre, j'ai vu aussi. Donc là, on parle des trolls et tout qui font pas grand chose, mais il y a aussi Je crois qu'on en a déjà parlé dans une discussion ou sur les articles du blog que le féminisme, il y a plusieurs courants dans le féminisme et qu'un féminisme pour une femme ou un homme ne sera pas le même que pour une autre personne. Et donc du coup là, je sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a une campagne qui se fait sur Instagram pour lutter contre la précarité menstruelle et du coup cette campagne incite les femmes à sortir sans protection hygiénique pour montrer que du coup il y a un réel problème au niveau de cette précarité menstruelle et apporter le soutien à toutes les femmes qui n'ont pas accès aux protections hygiéniques. Et alors, pareil sur Twitter qu'on appelle aussi le tribunal du net, il y a pas mal de personnes du coup qui se revendiquent féministes mais qui n'acceptent pas les autres courants féministes et qui du coup vont dire que le fait de montrer les règles sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, bah, c'est sale, c'est pas hygiénique, et que, alors je cite, « ce féminisme radical dessert la cause des femmes ». Bon, ça revient aux mêmes choses que décrédibilise la cause. Mais moi, je suis très étonnée de ça, en fait, de cette intolérance même au sein du courant même féministe qui est censé tous nous rassembler pour une même cause. Et en fait, on se tire dans les pattes, enfin, en général, global, on se tire dans les pattes alors qu'on devrait s'allier, même si on n'est pas d'accord sur tout. Enfin, je pense à la prostitution, notamment, qui fait grand débat dans les courants féministes. Mais en fait, je comprends pas que des personnes au sein qui sont ralliées par les mêmes idées, par les mêmes valeurs, se tirent dans les pattes comme ça, alors qu'il y a déjà des personnes extérieures qui nous tirent dessus. Enfin.
Bah, sûrement, enfin, vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais à l'inverse de ce qu'on vient de dire juste avant, il y a sûrement aussi, par le militantisme et par l'action, en fait, des personnes qui vont se créer une forme d'élitisme en se disant on est les personnes les plus les meilleures pour défendre telle cause, pour faire tel truc.
C'est ça, on est les personnes les mieux placées pour en parler.
Ouais. Et voilà, et d'autres mouvements et d'autres actions et d'autres collectifs d'ailleurs qui vont pas dans les valeurs exactement être sur les mêmes lignes et dans les actions être des fois radicalement opposées, et bah pour le coup ça va un petit peu déconstruire ou un petit peu venir amocher cet élitisme que certaines personnes se construisent, et c'est pour ça qu'elles vont être aussi virulentes et aussi pas disposées à l'accepter et à justement avoir une sorte de solidarité entre plein de personnes et plein de profils différents qui défendent tous pour la même cause, quoi.
Et ouais, c'est compliqué encore aujourd'hui.
Parle plus près de ton micro, s'il te plaît.
Pardon. Juste pour revenir aux médias traditionnels, enfin, il y a aussi aujourd'hui tout le. Alors, je pense que peut-être que Anaïs et Romane, vous serez mieux à même de parler de ça que moi. Au niveau de la presse féministe, je sais qu'il y a Cosette, par exemple. Enfin, je connais pas trop les journaux comme ça. Je sais que toi, Romane, t'es abonnée.
Moi, je suis abonnée à Cosette.
Donc, il y a
qui est un super journal que j'apprécie beaucoup. C'était un cadeau de Noël de ma maman, voilà, d'être abonnée à Cosette. De quoi on peut parler dans les grands médias féministes classiques?
Bah, effectivement, comme disait Ophélie, moi je suis beaucoup sur Twitter et sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Après, médias féministes, si, moi je me suis abonnée à la newsletter de Titu Lecoq sur Slate. Donc Titu Lecoq, elle a écrit plusieurs bouquins. Sinon, il y a donc sur Twitter, il y a Valérie Rey-Robert qui a écrit le livre sur la culture du viol, une tradition à la française, c'est le titre du livre, et elle fait souvent des threads ou des explications sur le viol, les violences sexuelles, etc. Voilà.
Ok.
Et là, je viens juste de voir, il y a aussi je sais pas si vous avez entendu parler, un magazine féministe pour enfants qui est sorti récemment, là, qui s'appelle Chica, qui a du coup été créé par Elisabeth Roman. Et elle dit que c'est le genre de magazine qu'elle aurait aimé lire étant enfant, donc ça s'adresse pour les enfants, donc c'est pas que pour les petites filles, hein, c'est aussi pour les petits garçons de 7 à 12 ans. Et je trouve ça pas mal qu'il y ait des magazines comme ça pour les enfants qui sortent, parce que bah du coup vous l'avez entendu un peu au début de l'émission, mais il y a mon petit frère qui est là que j'essaye
ça va toujours
oui que j'emmène avec moi sur il était avec nous sur Regard de Tour avec Rêve, donc là il est avec nous à la radio, tout à l'heure il viendra avec nous parce qu'on enregistre le jour de la marche des fiertés
le 15.
Il viendra avec nous. Et du coup, je trouve ça bien qu'il y a des initiatives comme ça qui sortent pour les enfants, parce que, enfin, moi, je vois avec Matisse, Bah, on en parle récemment, de, enfin pas récemment, mais c'est pas le mot que je voulais employer.
Régulièrement,
tous les jours, c'est ça. C'est ça, de ce sujet, et du coup, je trouve que c'est là où ça a le plus grand impact quand les futurs citoyens sont enfants. Donc, moi j'aime bien ce magazine, et du coup, je pense qu'on essaiera de se renseigner.
Pourras-tu m'abonner ?
Allez !
On va voir ça.
Non, mais je suis d'accord, c'est bien. Que... C'est bien de commencer la propagande tôt, comme ça on les embrasse. Après, on fait des bons petits soldats.
On va se faire des masques.
Le grand complot féministe est démasqué.
C'est ça. C'est un truc qu'on entend tout le temps. C'est une question d'éducation, tout ça, machin. C'est bien beau de le dire. Sauf qu'une éducation.
Ah oui, bah, c'est sûr.
Ouais, pour une éducation, pour la changer, bah, c'est l'histoire de. C'est une affaire de plusieurs années, quoi. Donc, si on commence tôt. Et si on considère aussi la jeune génération qui est déjà présente, qui est déjà là, qui vit déjà en même temps que nous, et qui sera la future génération de citoyens, bah, si on la considère et si on fait des actions envers eux à leur destination, bah, ça peut, je pense que ça sera grandement efficace et ça portera ses fruits donc, dans plusieurs années.
Ouais, puis c'est vraiment très très tôt parce que bah, pour le coup, donc, moi j'ai fait aussi un volontariat en service civique avec le BIJ et j'ai aussi fait des interventions en collège sur l'égalité femmes-hommes, et en fait c'est déjà pas trop tard, mais il y a déjà plein de choses qui sont ancrées, et en fait c'est très très tôt qu'il faut parler de qu'il faut parler de tout ça, et vraiment dès le plus jeune âge il y a des choses à changer, et puis même au niveau des enfants dans leur vie de famille, au final selon comment la famille est construite, il y a des choses qui sont qui viennent même pas de l'école, mais qui viennent au final du quotidien de l'enfant, donc
c'est ça.
Est-ce qu'on clôt la discussion sur ça ?
Yes, we can.
Moi, ça me va.
Moi aussi.
Donc, merci.
Parfait.
Merci à tout le monde. Donc, on va enchaîner avec une seconde pause musicale avant de passer, du coup, à la chronique d'Anaïs, cette fois-ci. Donc là, en pause musicale, on a Lizzo et c'est Water Me. C'est parti.
Give me that sweet tea, you think I'm playing? I need it all night, no sleep. You can get it in the kitchen if you're sweating at the sheets. Like, brruh, brruh, operator, you got me like, hee-hee, Mike Jackson. I think I'm getting deeper. And I can make you boil up, baby, let it simmer. We'll be right back.
C'était Lizzo Water Me sur Radio Campus Tour 99.5 ou radiocampustour.com si vous nous écoutez en podcast. C'est toujours Ménage-toi Simone, l'émission de juin, la sixième et la dernière avant septembre. On attaque la troisième partie de l'émission et donc là on va écouter la chronique d'Anaïs. Anaïs, sur quoi porte ta chronique aujourd'hui ?
Alors, donc, je vais encore faire un « Comment répondre à Tonton Relou ?» Rappel express du concept pour les personnes qui n'ont jamais entendu ce passage de l'émission, même si, bon, tout est un peu dans le titre. Dans « Comment répondre à Tonton Relou ?», j'essaie de vous aider à répondre simplement à des idées reçues qu'on entend régulièrement. Par exemple, un repas de famille où Tonton Relou, le fameux, va te sortir que les femmes ont un sens de l'orientation pourri. Alors, dans ma dernière chronique de l'émission du mois d'avril, que personne n'a écoutée puisque celle-ci est tombée dans les limbes et est toujours portée disparue... je vous ai fait un petit point, un petit cours d'anglais féministe. Et il y a un mot dont j'ai oublié de parler, c'est le mot trigger warning. On pourrait le traduire par mise en garde, et en gros, c'est un mot qu'on peut écrire au début d'un texte ou dire au début d'une intervention, qui pourrait potentiellement rappeler un traumatisme à quelqu'un. Ça permet à la personne que ça pourrait heurter de ne pas écouter ou lire le contenu en question. Donc là, je vais faire un trigger warning, violence sexuelle. Si tu n'as pas envie d'entendre ce qui va suivre, je te laisse en gros 20 secondes pour couper ta radio ou mettre le podcast en pause. Reviens dans 5-6 minutes à peu près, je devrais avoir fini. Et pour occuper ces 20 secondes avec autre chose qu'un blanc sonore, je vais te parler des capybaras. C'est une espèce de rongeur qui vit en Amérique du Sud. Les individus mesurent plus d'un mètre et pèsent parfois plus de 50 kilos. Et le capybara est un excellent nageur qui vit près des cours d'eau. Il base sa survie sur une cohésion sociale très forte. Par exemple, il arrive que dans un groupe, les jeunes d'âge divers soient confiés à l'un des adultes. Ce jardin d'enfants permet aux autres parents de se baigner ou de sourire sans mettre en danger leur progéniture.
Ça y est, je crois qu'ils sont quittés.
Fin de l'intermède animalier, je passe au vif du sujet. Et donc, je disais, les violences sexuelles. Normalement, ma chronique est censée être un peu marrante, mais vu le sujet, c'était pas trop possible. Mais je vais quand même essayer de vous aider à répondre au relou qui vous dira « elle l'avait bien cherché », et ce, autrement qu'à coup de tarte dans la gueule. Donc j'ai voulu aborder ce sujet, parce que dernièrement, Neymar a été accusé de viol par une femme, et qu'encore une fois, on a entendu un sacré paquet de conneries. Alors, que peut-on entendre sur les violences sexuelles ? Souvent dans ce genre d'affaires, certains se demandent comment la victime était habillée, si elle n'a pas envoyé les mauvais signaux, en gros, si elle l'a pas un peu cherché. D'autres personnes explique qu'on doit laisser faire la justice, qu'il ne faut pas faire de condamnations précipitées, que les accusations vont pourrir la vie de l'agresseur présumé, etc., etc. Donc je vais répondre point par point à tout ça avant d'expliquer pourquoi ces idées-là persistent. Alors, comment la victime était habillée ? Sous-entendu, si elle portait une jupe ou une robe, c'est un peu de sa faute aussi. Alors déjà, même si la personne se baladait à poil dans la rue, ça ne justifie rien. Les vêtements, c'est pas une justification, il n'y a pas de lien avec l'agression. D'ailleurs, en 2018, l'association Parler a présenté une exposition intitulée « Que portais-tu ce jour-là ? » L'expo venait de l'université du Kansas et elle contient 16 tenues de victimes de viol, accompagnées des témoignages des victimes. Les 16 tenues donc, sont des pièces à conviction sous scellé et le but de l'expo c'est d'illustrer que la tenue vestimentaire n'est pas un argument pour justifier le viol puisque en jogging ou en mini-jupe c'est le même combat, on a la même probabilité de subir ça. D'ailleurs c'est pareil pour le harcèlement de rue, hein. Moi je me fais autant merder quand je sors de l'entraînement de volley complètement dégoulinante de sueur que quand je sors en ville habillée un peu normalement. Alors ensuite, les mauvais signaux. Alors en gros, à un moment donné, c'était oui, du coup j'ai cru que... bon, là je m'arrache vraiment les cheveux parce que j'en ai vraiment marre que les gens fassent semblant de pas comprendre qu'on peut dire oui à un instant T et dire non juste après. C'est plutôt simple. À ce propos, il y a une excellente vidéo qui s'appelle... Non, du studio, pardon. Blue Seed Studio, qui s'appelle T-Consent, elle a quelques années maintenant, qui fait le parallèle entre le consentement et une tasse de thé. Par exemple, si vous faites du thé et que vous en proposez à quelqu'un qui accepte, bah du coup nickel. Si vous proposez du thé à une personne qui n'est pas sûre de vouloir en prendre, bah on la force pas à en boire. C'est pas parce que tu as fait cette tasse que ça te donne le droit absolu de voir cette personne la boire. Si la personne à qui vous proposez du thé répond non merci, bah tu lui fais pas de thé, tu lui fais pas boire de thé de force et tu l'engueules pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Et si la personne accepte du thé et elle refuse après, bah alors c'est sûr, c'est chiant parce que t'as fait du thé pour rien, mais bon, personne n'est obligé de boire du thé si elle n'a pas envie. Donc si vous arrivez à piger le truc avec du thé, je pense qu'avec le sexe, ça devrait être pareil. Autre référence dont je voulais vous parler, le documentaire « Sexe sans consentement » qui a été diffusé en 2018 sur France 2. Le film traite de la zone grise, cet espace où soi-disant il y a un malentendu quand il s'agit de relations sexuelles. En gros, on sait pas trop si c'est oui ou non. Le film alterne en fait deux discours. D'un côté, on a des mecs qui donnent leur définition du consentement et leur idée de la séduction et des choses qu'ils ont vécues. Et de l'autre, on a des jeunes femmes dont le consentement a été outrepassé. Alors au final, les témoignages sont vraiment, enfin moi j'ai trouvé violent. Cette zone grise n'existe que pour ceux qui ont franchi les limites, puisque les victimes, elles, savent très bien que ce qui s'est passé n'était pas du tout normal. Ensuite, le laisser faire la justice. Donc là, je vais faire le petit point statistique en me basant sur les chiffres du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2017, 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol et ou de tentatives de viol sur une année. En 2017, une femme majeure victime de viol sur 10 déclare avoir déposé plainte. Donc déjà, le une femme sur 10 sur les 94 000, ça baisse beaucoup. Et entre 2007 et 2016, les condamnations pour violences sexuelles ont chuté de 25% en moyenne. Cette tendance s'accroît avec la gravité des violences. Donc pour agression sexuelle, on a une baisse de 22% et pour les viols, c'est une baisse de 39%. Donc en gros, déjà, il faut que la victime parvienne à porter plainte avec tout le parcours du combattant qui va avec. Mais ensuite, il y a peu de condamnations et seulement 2% des violeurs vont en prison. Parenthèse, je dis violeurs parce que toujours selon les stats du HCE, 99% des personnes condamnées pour violences sexuelles sont des hommes. Mais il ne faut pas oublier que les femmes peuvent être agresseuses également et les hommes victimes de violences. Les accusations vont lui pourrir la vie. Alors celui-là, il est formidable. Déjà, il y a peu de condamnations, donc non. Et même s'il y en a, ça a quand même plutôt pas mal pour les agresseurs. Myriam Mal, qui est une autrice de BD, a fait note sur son blog Commando Culotte il y a quelques temps, qui portait sur l'impunité des hommes célèbres. La note faisait suite en fait aux accusations de Amber Heard, qui était l'ex de Johnny Depp. Elle l'accusait de violence conjugale. Et alors clairement, la présomption d'innocence allait sur Johnny Depp, parce que c'est un super acteur, et que Vanessa Paradis avait dit qu'il aurait jamais pu faire ça, donc il a jamais pu faire ça, ok. Par contre, dans les médias, la culpabilité allait sur donc Amber Heard, qui n'était qu'une voleuse, qui voulait lui piquer tout son fric, en gros, via les dommages et intérêts du procès. Et alors à la fin du poste, Myriam Mal dresse un listing non exhaustif des hommes dont la vie aurait soi-disant été menacée par ces accusations. Donc bah, bien sûr, il y a Roman Polanski, hein. Il y a aussi David Bowie qui a été accusé de viol en 87, Michael Fassbender qui a été accusé de violence conjugale sur sa petite amie en 2009, et Sean Penn qui lui a carrément agressé et séquestré sa compagne Madonna dans les années 80. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que leur carrière, ça va à peu près quoi. Et alors... pour celles et ceux qui se demandent tout le temps si la victime dit vrai, au final, il n'y a que 2 à 8% selon les études de fausses accusations de viol. Et dans ces 2 à 8%, on compte les erreurs d'agresseurs et les plaintes retirées. Donc déjà, c'est pas clair non plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense ces choses-là en France encore ? Eh bien, parce qu'on baigne quotidiennement dans ce qu'on appelle la culture du viol. D'après Wikipédia, c'est un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d'attitudes partagées au sein d'une société qui minimiserait, normaliserait, voire encouragerait le viol. Alors concrètement, comment ça se manifeste ? Bah, par exemple, il y a des fausses idées de type « on se représente les viols comme une agression en pleine nuit dans un parking glauque par un inconnu psychopathe qui t'attaque au couteau ». Alors que toujours selon le Haut Conseil à l'égalité, dans 91% des cas, donc 9 fois sur 10, les femmes victimes de viols et de tentatives de viols connaissent l'agresseur. Donc dans près de la moitié des cas, 47%, l'agresseur est le conjoint ou l'ex-conjoint. Donc c'est assez violent parce que ça veut dire que si nous, les meufs, on a autant de potes qu'on subit des agressions et qu'elles-mêmes connaissaient leurs agresseurs, bah ça veut dire que potentiellement, il y en a beaucoup autour de nous en fait. Donc comment on sort de tout ça ? Eh ben, on en parle et on essaie de cultiver la culture du consentement. Voilà, maintenant que j'ai bien cassé l'ambiance, je sais pas trop comment finir la chronique, donc je vais simplement reprendre un slogan du collectif féministe contre le viol. Le viol concerne la violence, pas le sexe. Si tu te prends un coup de pelle dans la gueule, t'appelleras pas ça du jardinage. Voilà.
Merci Anaïs pour une chronique. Il pète un peu le moral, c'est sûr, mais c'est toujours...
On enchaîne.
Non, c'est toujours d'une qualité. Et franchement, oui, je recommande, je souligne qu'il faut aller voir tout ce que tu cites dans ta chronique, parce que, notamment la vidéo sur le consentement, comparé à une tasse de thé,
oui,
c'est vraiment...
elle est très très bien.
Très très bien, très didactique. Et le reste aussi... Enfin voilà, allez voir, on ne fait pas un gros travail de sourçage sur la page où est posté le podcast de l'émission, mais... Vous pouvez faire pause et puis aller chercher
les références.
Grave, on vous y invite en tout cas. Merci. Et puis bah, pour enchaîner et puis pour un petit peu parler de choses un petit peu plus réjouissantes, c'est le moment de la rubrique Tout n'est pas perdu, où on recense les bonnes nouvelles, les actualités, voilà, qui font un petit peu, qui nous font un peu croire que ça avance doucement, qu'on fait pas ça pour rien et que de jours meilleurs sont à venir. Voilà, c'est Tout n'est pas perdu, donc on a encore une fois chacun chacune une bonne nouvelle à annoncer. Et on va donc prendre la parole chacun chacune notre tour. Qui souhaite commencer?
Bah moi je veux bien, je veux bien commencer. Donc comme on l'a dit précédemment, on enregistre cette émission le 15 juin, donc qui est le jour de la Marche des Fiertés à Tours. Et pour célébrer cette merveilleuse journée, eh bien, le Botswana, donc le pays africain, a dépénalisé l'homosexualité, qui n'est donc plus considérée comme un crime.
Youpi. Ah non, je savais pas que c'était considéré comme un crime là-bas.
Alors dans certains pays, c'est considéré comme un crime. Tu peux faire de la prison parce que tu es homosexuel, et il y a encore beaucoup de pays qui considèrent l'homosexualité comme un crime. Donc tu vois, comme Roman explique, c'est un peu une victoire à chaque fois qu'il y a un pays qui ne considère plus l'homosexualité comme un crime. Mais ça existe encore aujourd'hui.
D'accord.
Puis la prison, c'est dans des cas cool, parce que des fois c'est carrément la peine de mort.
Oui, oui.
Dans le cas du Botswana, il me semble que c'était que, entre guillemets, que de la prison.
Oui.
Mais on se concentre sur le positif.
Oui, c'est ce que j'allais dire, je plombe l'ambiance, pardon, mais vraiment.
Et un peu plus tôt, c'était aussi un pays du sud de l'Asie aussi.
Taïwan.
Taïwan.
Oui, c'était exact. Le premier pays asiatique à dépénaliser l'homosexualité.
C'est cool, on avance.
Ah ouais, rendez-vous compte, ça veut dire que dans tous les autres pays d'Asie, qui est quand même, ça prend de la place, et c'est beaucoup de gens qui habitent là-bas, dans tous ces autres pays-là, hormis Taïwan depuis très, très peu, l'homosexualité est toujours interdite.
Mm.
C'est chaud.
Alors, à Taïwan, petite nuance, c'est le mariage pour tous qui a été autorisé. Au Botswana, les personnes de même sexe n'ont pas encore le droit de se marier, mais beaucoup d'associations sur place disent que maintenant que ce n'est plus un crime, on va militer pour pouvoir épouser la personne qu'on aime.
Maintenant qu'on est lancé, autant qu'on continue.
C'est ça. Non, mais t'as raison de faire la distinction, parce que je me suis trompé, sûrement que l'homosexualité n'est pas reconnue comme un crime dans plusieurs pays d'Asie, c'est sûrement à Taïwan, donc le mariage, l'union de deux personnes du même genre est
autorisé. Et donc du coup, c'est le premier pays asiatique où l'union entre deux femmes ou deux hommes est autorisée.
Et cool. Ça, c'est beau.
Et ça, c'est beau.
Ça avance. Qui prend la suite?
Moi, je veux bien, si vous voulez.
Vas-y.
Moi, je vais vous parler du mondial de football féminin. Cool. Alors, en vrai, j'aime pas trop le foot. Je préfère le volleyball. Mais bon, c'est comme ça. Chacun ses goûts. Alors déjà, félicitations aux meufs parce qu'elles ont gagné 4-0 face à la Corée et 2-1 contre la Norvège. Donc déjà, c'est cool. Et moi, ce qui vraiment me met en joie, c'est les super résultats télévisuels. C'est-à-dire que le premier match a réuni 11 millions de téléspectateurs. Et le deuxième match, 9,4 millions, avec aussi un pic à 11 millions. Mmh. Sachant qu'on est 66 millions en France. En gros, ça fait une personne sur 6 qui regarde le match de foot. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Et surtout, moi, je m'attendais à des réactions un peu de gros beaufs, notamment sur Twitter. Finalement, pas du tout. Bon, après, on a aussi la TL qu'on choisit. Moi, je suis que des gens... cool. Mais je m'attendais vraiment à un dégueulis de messages horribles, et en fait non, les gens sont plutôt à saluer la beauté du jeu et tout, donc c'est vraiment trop bien. Voilà.
Ouais. Et pour te rejoindre, pour dire aussi que ça intéresse des gens, c'est qu'il y a aussi beaucoup de places qui sont déjà vendues, et je crois que les deux demi-finales et la finale, toutes les places sont vendues, enfin pour assister à ces matchs-là, déjà complet.
C'est déjà complet, ouais.
Ouais. Et moi, j'ai entendu il n'y a pas longtemps une distinction très très intéressante. On parle toujours de la Coupe du Monde de football féminin.
Oui.
Et en fait, c'est le même sport, avec les mêmes règles. Et
c'est
donc, il faudrait plutôt dire la Coupe féminine de football.
Ouais. Oui.
Puisque c'est du football dans les deux cas.
C'est pas du foot féminin, c'est du foot. Effectivement, féminin. C'est la Coupe qui est féminine.
Là, ouais. C'est la Coupe féminine de football. Ça a l'air de rien, mais je pense que, voilà, enfin, on connaît, je pense qu'on a déjà aussi parlé dans notre émission de la force des mots et de la force de la structure de la langue, comment elle permet de maintenir des idées et maintenir des stéréotypes. Et bah là, justement, c'en est une petite distinction. Si on peut faire attention à dire la coupe féminine de football ou l'équipe féminine de football et pas l'équipe de football féminin.
Tout à fait.
C'est le même sport.
Tout à fait. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le foot. Du coup, j'ai été voir ce fameux match dans un bar et j'étais très agréablement surprise de voir qu'il y avait des gens, plus, enfin le match était un mercredi soir si je dis pas de bêtises, et il y avait plus de monde que qu'un mercredi soir normal, et les gens avaient des perruques, avaient des écharpes, étaient maquillés aux couleurs de l'équipe de France, et ça m'a fait plaisir, mais comme pas possible, des gens qui, enfin voilà, je suis convaincue de la force du sport et du fait que pour moi cette coupe du monde, elle peut changer les mentalités, mais d'une force. Voilà, je suis convaincue. Déjà, je suis convaincue qu'elles vont aller très loin parce qu'elles sont excellentes. C'est regarder les matchs juste pour la beauté du jeu, vraiment. Enfin, c'est beau, c'est un beau jeu, c'est fluide, c'est voilà. On va pas parler des footballeurs, mais c'est pas le même type de jeu, quoi.
Du coup, moi, ça me fait beaucoup rire aussi parce que bon, vu que c'est un contexte mondial de foot, il y a plein de gifs qui ressortent sur Twitter et j'en reparlais tout à l'heure. Qui mettent en parallèle notamment genre une joueuse qui se prend un coup dans le nez, qui pisse le sang mais qui court encore, et genre un joueur Ronaldo qui se fait effleurer l'épaule et qui se roule par terre en se tenant le nez, genre il s'est pris un coup de boule dans la gueule. Ça me fait beaucoup rire.
Et il y a un autre événement aussi depuis le début de cette coupe féminine de football qui s'étend donc jusqu'au 7 juillet, je crois que ça s'arrête le 7 juillet.
C'est ça, la finale est le dimanche 7 juillet.
Oui. Et il y a eu, donc ça a lieu en France, ça a lieu dans plusieurs stades de France, à Paris, la finale sera à Lyon je crois. Et justement au cours des matchs qui ont déjà eu lieu, il y en a eu un qui s'est passé à Rennes, et c'était un match qui opposait le Chili à la Suède. Et en fait au début du match, il y a eu sur une aile des gradins, il y a des femmes qui avaient préparé leur coup, préparé leur action en accord avec la FIFA, et qui ont chanté toutes ensemble la chanson Debout les femmes, qui est un hymne féministe très fort et très impactant, ouais. Et qui vraiment fout les poils. Et enfin vraiment, j'ai pas trop la culture des stades, j'ai pas trop la culture du football, tout ça, mais je pense que les chants de supporters, ça a cette force là et celui-là pareil, on peut trouver des vidéos sur internet. Donc c'est Debout les femmes sur le match Chili-Suède à Rennes, et moi ça m'a foutu les poils, vraiment. C'est vraiment un très très beau moment, quoi.
Ouais, cette chanson a le pouvoir de te donner des frissons, c'est incroyable.
Du coup, tous dans les bars le 7 juillet pour supporter les Bleus, parce que je suis convaincue qu'elles vont aller jusqu'en finale.
Allez.
C'est pas les... Alors, je voudrais pas être énervée, mais c'est pas les Américaines qui sont favorites? Non, d'accord.
Non, pour moi, c'est
alors le regard que vous avez, c'est pas très.
Non, en vrai, ça me plairait beaucoup de voir une finale États-Unis France, mais en fait, vu qu'on va,
elles sont pas dans le même tableau.
Enfin, on n'est pas dans la même poule, et en fait, on va certainement s'affronter en quart de finale ou en demi-finale.
Avant la finale.
Avant la finale. Du coup, on aura droit à une petite finale, mais mystère. Ça va être le choc des Titans.
Ce serait quand même un match incroyable, quoi. Que ça soit en finale ou pas, je pense que ça soit. Ça, faut pas rater ça, quoi.
Mais vraiment, et puis je saurais pas vous transmettre l'émotion que j'ai eue à regarder ces femmes se battre sur le terrain et que ce soit retransmis sur une chaîne de télévision et pouvoir hurler quand elles marquaient des buts, etc. Vraiment, je serais incapable de vous retransmettre l'émotion que ça m'a mis, et le fait de oh, putain, ça m'arrive dans ma vie au moins une fois sur une grande chaîne, je vois ma joueuse préférée évoluer sur un terrain aussi fou que le Parc des Princes, quoi.
Ouais.
Si tu cries à chaque but, t'as dû beaucoup crier, parce que 4-0 face à la Corée...
J'ai pas pu regarder le premier match, le deuxième, j'étais devant. Bon.
Voilà, c'est dire aussi qu'il y avait 10 millions de spectateurs.
C'est un truc de ouf.
Ouais.
Ça devait être... Je pense que ça participait même mais, malgré toi, l'ambiance.
Ça, c'est le fun fact perso pour moi, mais même mes parents ont regardé, alors que ma mère, pas du tout. Et mon père, justement, ne regarde plus le foot masculin, le mec de foot, parce que lui, c'est les histoires de pognon qui le saoulent. Et du coup, il s'est dit, oh là, allez, je vais regarder. Et il m'a dit, la beauté du jeu, comme tu disais, Roman, c'est trop beau, quoi. Donc, voilà.
D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais enchaîner avec aussi ma bonne nouvelle, ma bonne actu. Pour le coup, c'est très frais, c'est tout récent, ça a eu lieu hier. Donc, c'était, au moment où je vous parle, hier, c'était le vendredi 14 juin. Et ça s'est passé sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est un collectif qui s'appelle Les Internets, avec E2TES. Donc, qui est un collectif de femmes françaises qui veut, son credo, c'est de faire la promotion des femmes qui font de la création, la plupart du temps, vidéo sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Dailymotion, sur d'autres réseaux sociaux, ailleurs. Voilà, il y a ce collectif qui est là pour faire leur promotion et les soutenir. Et en fait, ça fait 3 ans. Trois fois qu'elles font une action, un coup de com' qui s'appelle YouTubers Day, et c'est toujours en cette période-là, à la mi-juin. Et le truc, c'est que bah voilà, c'est on incite du coup les personnes à mettre avec le hashtag YouTubers Day de tweeter et de recommander une chaîne, le travail d'une créatrice sur internet, le travail d'une vidéaste, voilà, le travail d'une personne inspirante qui publie son travail sur internet. Et pour le coup, la troisième édition, ça a battu des records d'efficacité Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont relayé ça. Ça a été, le hashtag a été un moment dans la journée d'hier en tendance du Twitter français. Et ça s'explique notamment puisque bah, y a des gros influenceurs sur internet qui ont participé. Il y a Natou qui a fait sa sélection de youtubeuses, il y a Cyprien, il y a Norman.
C'est trop cool qu'ils aient suivi.
Ouais, il y a Odgoni Goubert et il y a aussi quelques médias, un peu de presse. Bon, pour le coup, c'est de la presse aussi. Il y a Numérama, je crois, et Mademoiselle. Donc, ils sont quand même relativement impliqués et concernés par. Par cette cause-là. Mais voilà, pour le coup, on a cette petite action-là qui est annuelle, qui est portée par les internets et qui, aujourd'hui, ou plutôt hier, a battu des records d'affluence jusqu'à être en top tendance, en trending topic sur Twitter France.
Quel accent magnifique.
Et voilà, moi, je voulais en parler parce que bah, je passe énormément de temps sur YouTube. C'est vraiment, la vidéo, c'est l'un des moyens qui est le plus simple pour moi, le plus accessible pour apprendre quelque chose, pour me sensibiliser à un sujet. Et voilà, il y a vraiment énormément de créatrices sur Internet. Et je vais parler de ce que je connais sur YouTube. Et franchement, elles méritent plus de visibilité, elles méritent plus de reconnaissance pour leur travail, puisque c'est au moins aussi bien que... lorsque c'est des hommes qui produisent du contenu.
Carrément. Donc allez sur Twitter, cherchez le hashtag YouTubeusDay et vous allez découvrir des chaînes trop trop cool.
Carrément.
Et toi du coup, t'avais dit quoi comme YouTubeuse Merlin ?
Ah, moi je suis pas sur Twitter et puis j'ai vu l'action un peu tard. Mais j'en ai déjà recommandé, je crois, dans Ménage-toi Simone, mais là si je devais... La première qui me vient à l'esprit, c'est une nana qui tient la chaîne Syllabus, qui est canadienne, québécoise, et ça parle de science. Elle-même est docteur... un doctorat en je sais pas quoi, et elle fait des vidéos qui parlent de science. Sa dernière vidéo, ça explique comment les cheveux mouillés, pourquoi les cheveux mouillés ont l'apparence de cheveux mouillés. Et du coup, elle commence sa vidéo en disant que des fois, il y a des questions qu'on se pose absolument pas, mais la réponse à la question est tellement intéressante, ouais, que du coup, ça nous fait poser la question. Et voilà, donc ça parle de capillarité, ça parle de mécanique des fluides, ça parle d'attraction, tout ça, c'est méga bien. C'est, voilà, pour des gens qui s'intéressent aux sciences et à la physique notamment, je recommande Syllabus sur YouTube.
Eh ben merci. J'irai voir ça parce que je connaissais pas du tout.
Ouais. Et donc à toi Ophélie. Ouais, Ophélie et Mathis pour la dernière bonne nouvelle.
C'est ça. Alors moi j'en ai trois. Alors il y en a une toute petite, une moyenne et une un peu plus grande, on va dire. La toute petite, c'est je reprends un peu ce que Anaïs tu disais sur l'affaire Neymar où il est accusé de viol et justement tout ce qu'on a pu entendre. Voilà, et notamment les deux chroniqueurs de RMC Sport, donc Daniel Riolo et Jérôme Roten, qui ont eu des propos totalement sexistes, misogynes au possible. Alors je vais vous lire ça si vous n'avez pas suivi. J'ai pas pu m'empêcher de penser à un truc con, mais la nana, tu l'as vu la nana ? Tu fais venir une nana du Brésil, je m'attendais à ce que ce soit un avion de chasse intersidéral, je suis vachement déçue. Donc, les deux mecs ont décidé de faire des propos sur le physique d'une femme qui accuse un grand joueur de foot de viol. La chaîne RMC, du coup, a réagi en les suspendant pendant une semaine. Bon, c'est pas grand-chose, c'est pour ça que je dis c'est une petite bonne nouvelle.
Il y a une réaction, déjà.
Oui, c'est ça. C'est cool. C'est ce que je salue dans cette nouvelle. Et normalement, ils devraient reprendre l'antenne lundi matin. Donc, ils se sont excusés et tout, enfin... petites excuses, mais bon. En fait, c'était surtout pour ça, pour saluer le geste de RMC Sport de les avoir suspendus, même si c'est que pour une semaine.
Mais il n'y a pas une différence entre la chaîne télévision et la chaîne radio ?
Alors, j'avais vu, alors je sais plus, j'ai pas réussi à retrouver, mais j'avais vu que à la télé, ils pourraient reprendre, mais que du coup, sur la radio, c'était mort, et au final, sur le communiqué de RMC, ils disent qu'ils reprennent bien dans l'émission des grandes gueules, surtout pour Daniel Riolo, pardon. Donc finalement, je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais à suivre.
À faire à suivre.
Ouais. La deuxième bonne nouvelle, c'est alors je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques semaines sur un village en Vendée, La Roche-sur-Yon, village associatif avec un stand du centre LGBT qui a été dévasté par certains étudiants. Voilà, alors moi j'ai fait partie de cette fac, voilà, j'ai fait mes études dans la fac en question, l'ICES, donc j'ai côtoyé ces étudiants et je les connais, je sais qu'ils sont fachos, enfin voilà, au possible, parce que c'est... Enfin, alors, comment dire, je pense qu'en ayant fait mes études, j'ai le droit de le dire, mais l'ICES étant une fac catho, on retrouve pas mal de courants d'extrême droite. Et en fait, je salue le geste de l'ICES, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont été interpellés, une 12 ou 13 je crois. Et parmi ces étudiants, donc, il y en a deux qui ont été exclus définitivement avec effet immédiat. Et la plus petite peine, c'est un blâme pour un étudiant, mais sinon c'est des exclusions qui varient entre 2 ans et 6 mois. Donc moi je suis hyper étonnée de la part de l'ICES d'avoir fait, d'avoir exclu des étudiants comme ça. Et
ça c'est encore un coup de l'inquisition féministe.
C'est ça. Et alors je pense que si ça a été aussi fort, c'est parce que l'image de l'ICES en a pris un gros coup. Tout le monde a dit, mais de toute façon c'est une fac de facho, enfin voilà, d'extrême droite au possible, ce qui n'est pas forcément tort. Mais il y a des gens bien qui y sont aussi.
La preuve.
C'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'exclure aussi fortement des étudiants. Et dans un sens, je suis plutôt contente qu'il y ait eu cette vague de haine, entre guillemets, vraiment je mets des gros guillemets, contre l'ICES, parce que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que ces étudiants n'auraient pas été sanctionnés comme il faudrait. Donc dans un sens, là pour le coup, réseaux sociaux ont joué un peu leur rôle de tribunal, comme on a dit tout à l'heure. Et ouais, je suis surprise, mais dans le bon sens du terme. Et enfin, la dernière, tout n'est pas perdu. Voilà, il y a toujours mon petit frère qui est autour de la table. Et la dernière fois, il est rentré de l'école et il avait fait un crocodile en perles. Je sais pas si vous avez déjà fait ça quand vous étiez enfant.
Oui, ouais.
Et il était trop fier de son crocodile en perles. Et je lui dis, ah bah c'est cool et tout, si tu veux, moi j'en ai plein des perles, je te les donnerai. Et il me dit, ouais, pas de soucis. Donc il fait ses petits trucs. Et puis il me dit, ouais, à l'école, si tu veux prendre la suite, Mathis.
Bah, à l'école, il y en a plein, ils disaient que les perles, bah, c'était pour les filles, pas pour les gars et tout. Et du coup, la prochaine fois qu'ils diront ça, bah, je leur dirai, bah, chacun son choix, et tout, et tout.
Ok, et est-ce que tu te sens capable de leur dire ça?
Oui.
Ouais. En fait, là où ça m'a fait beaucoup de peine en tant que grande sœur, c'est que... même à l'école, c'est pas la première fois, il y avait déjà eu un truc avec des tailles crayons vert et rose, enfin je vous épargne toute l'histoire, mais c'est que mon petit frère, il est très créatif, on aime bien faire des choses de nos mains, tout ça, et le fait que justement il y ait des enfants qui soient dans sa classe, qui sont censés être ses copains et qui lui disent bah non, ce que tu fais c'est pas un truc de garçon quoi, c'est un truc de fille, enfin voilà, et puis tout ce qu'on s'entraîne, enfin je pense qu'on est assez sensibilisé pour savoir ce qui se cache derrière tout ça. Moi, ça me fait mal et du coup, je me dis, j'espère que ça va changer et que tu pourras leur dire ce que tu penses.
Grave.
Non, parce que ceux qui m'ont dit ça, c'est pas mes copains, c'est d'autres gens de classe.
Tu choisis bien tes potes, c'est cool.
Ouais.
Ça, c'est important.
Et du coup aussi, il y a sur les couleurs, dans mon école, il y en a pas, ils disent ça, mais... il y en a plein, je sais pas où, mais ils disent rose, violet et d'autres couleurs, c'est pour les filles.
Et t'en penses quoi, toi, quand on te dit ça?
C'est presque comme les perles, chacun son choix.
C'est ça. Donc c'est un peu le mot de tout n'est pas... Enfin, pourquoi j'ai choisi de parler ça dans les bonnes nouvelles, dans le sens où... moi je sais qu'il y a des enfants comme Mathis et même j'ai déjà discuté avec ses copains, ses copines, où on sait plus dans la culture liberté, chacun fait son choix, que chacun fait ce qu'il veut, et que moi je trouve ça bien.
Du coup, est-ce que je peux rajouter une petite tout n'est
oui,
pas perdu.
Un petit peu, oui.
Quand nous étions à Ocar l'avant-dernier jour, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le maquillage. Du coup, j'avais ramené tout mon barda, paillettes, colle à paillettes, machin, et du coup j'en ai mis à tout le monde. Et donc la journée se passe tranquillement, on anime le stand et tout. Et à un moment, je sens un petit garçon qui me tape sur le bras et qui me fait « Je peux te demander quelque chose ?» Moi, je me fais « Oui, demande-moi quelque chose, il n'y a pas de problème. Je peux avoir des paillettes ?» Donc je le regarde avec des yeux ronds. Même moi, j'étais vraiment la première surprise de sa demande. Je lui fais « Écoute, tu vas demander à ton père ?» Parce que je l'avais déjà vu avec son père. Et je lui fais, tu le ramènes, je lui demande, mais pour moi, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Donc, il part en courant. Je le vois pas pendant 5-10 minutes. Et puis, je le revois qui traîne, vraiment qui traîne son père par le bras, qui fait « Papa, papa, je veux des paillettes !» Moi, je demande au père, bah, écoutez, vous voulez bien que je lui mette des paillettes? Et le père m'a regardé d'un air consterné, il lui a fait, mais allez-y, mettez-lui des paillettes. Bien sûr. Vraiment d'un ton de je m'en fous, tu fais ce que tu veux.
Il moi, sur un truc comme ça, je pleure, je pense.
Mais après, je suis allée taper tout le monde, tapoter sur le bras en mode, oh, il m'a demandé des paillettes. Et j'ai fait, bah écoute, tu veux quoi comme paillettes? Il m'a fait les rouges parce qu'elles voient le plus.
Trop cool.
J'étais, vas-y, allez. Ouais. Mets du rouge partout, donc je lui ai mis des paillettes partout parce qu'il en voulait partout.
Alors par contre après ça flingue les oreillers, sachez-le, c'est extrêmement galère. Le père, les paillettes, mais bon, ça,
le père m'a dit de lui mettre des paillettes, ouais. Je lui ai mis des paillettes.
Très bien,
voilà.
Merci donc, beaucoup à tous et à toutes pour vos bonnes nouvelles. Merci à Mathis d'être venu dans l'émission pour partager ça, cette petite bonne nouvelle qui a réjoui donc Ophélie et puis sûrement aussi toute la famille. On va faire une dernière pause musicale avant de conclure l'émission. Et donc pour la dernière pause musicale, on va écouter Ben Mazu avec son titre « La femme idéale ».
Matin, crèche, taf, gamin, sortie, presse et dîner, bain, histoire, dans, dodo, câlin. T'as plus le temps, pourtant t'as rien commencé. C'est pas nouveau que tu cours, depuis que t'as plusieurs amours. Depuis que t'as mis au jour, et que le temps vient à te manquer. Le cœur est extensible, tu le sais maintenant. T'y as mis tes enfants, tu rêvais de cette vie, voilà que tu doutes. Tout le monde te dit vas-y, alors tu largues les bouts. Maître sable, sœur, mais sois en or, mais femme, sœur, tu peux pas. Maître sable, âme, sœur, mais sois en or, mais femme, sœur, tu peux pas. Plus le temps passera, plus tu sauras. D'abord t'as démissionné, les signaux t'ont bien décidé. Mais si non, ça s'est pas passé comme tu penses. T'es juste paumé, la confiance. Elle s'est barrée avec ton actu. Elle est partie depuis le début. Tu dois faire tes choix seul, sans modèle. Ton mec, ta mère, ta sœur. Y'a pas d'aide, y'a pas d'aide. Tu sais, maître sœur, père, âme, sœur. Bosseuse en or, mais femme, sœur. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maître sœur, père, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. Va trouver qui tu es, vas-y, va te réinventer. Quand ta vie s'est déconnectée, quand tu sais que tu n'es plus sexy. Quand tu sais que tu n'es plus maître sœur, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maître sœur, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu peux pas. Plus le temps passera, plus tu sauras. Maître sœur, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur.
Ben Mazué sur Radio Campus Tour. Avec un nœud accent aigu à la fin, c'était La Femme Idéale dans Ménage-toi Simone, l'émission de juin. On est toujours donc avec Ophélie, avec Mathis, avec Roman, avec Anaïs. Et on va entamer du coup la dernière partie avec nos recommandations culturelles et puis la conclusion de cette émission et de la première saison aussi malgré tout.
Mm-hmm. Oh, c'est ouf.
Et ouais. C'est passé si vite. Donc on enchaîne parce que bah voilà, dans notre habitude aussi, on va quand même avoir un peu de retard, je pense. Donc c'est parti, recommandations culturelles. Qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous souhaitez nous recommander?
Bah, je commence du coup. Alors, je parle encore d'Ocar. Ocar m'a beaucoup marqué cette année. Je ne sais pas si vous y étiez le mercredi soir, donc le premier soir, mais à 21h30, il me semble passer trois femmes qui venaient d'Afrique du Sud et dont la rappeuse principale s'appelle Dub St. Jude. Et cette femme est incroyable sur scène, déjà. C'était un bonheur de la voir. Enfin, c'est du rap comme j'aime, enfin, rythmé, qui bouge, qui dit de belles choses. Et en fait, en me renseignant un petit peu sur cette personne, parce que je ne la connaissais pas, et j'adore Ocar pour ce genre de découverte, cette jeune femme est de base une drag king, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui se travestit en homme. Et ensuite, elle est devenue, donc il la surnomme en Afrique du Sud, car elle est sud-africaine, reine du rap queer. Donc c'est une porte-parole du mouvement queer en Afrique du Sud, donc que des valeurs que je défends. Voilà. Donc elle, dans ses textes, elle parle droit des fans, droit des personnes LGBT, inclusion au niveau sociétal, etc. Et allez écouter, c'est le feu.
Ça s'appelle Dop Saint Jude.
Jude.
C'est vrai. Jude. Merci Roman. Qui enchaîne?
Bah moi je veux bien. Alors, enfin du coup c'est une recommandation commune avec Mathis parce qu'il était là aussi. On a été voir aux années jouées, donc le festival d'art de rue, le spectacle Speculum. Alors, qui a été mis en scène, monté tout ça par Delphine Billard, Flore Grimaud et Caroline Sahuquet, et qui parle des violences gynécologiques. Et vraiment, donc il a duré 1h30. C'est passé très très vite et elles ont abordé énormément de sujets. L'avortement, la première consultation chez le gynéco, un peu de PMA aussi, enfin l'infertilité, les fausses couches, enfin vraiment ça a été très complet, c'était drôle, c'était émouvant, c'était, enfin moi j'ai adoré, donc si vous avez l'occasion d'aller les voir, c'est le spectacle Speculum. Et Mathis, si tu as deux mots à dire de ton point de vue d'enfant de 10 ans sur ce spectacle?
C'est parce que aussi j'étais le seul enfant garçon.
C'est vrai.
Et il y avait beaucoup plus de filles et de femmes que d'hommes et de j'étais le seul garçon.
Et t'as bien aimé le spectacle?
Oui, j'ai bien aimé.
Bon, il y a certaines choses qu'il a pas compris, mais dans l'ensemble on en est ressorti content.
Super. Merci beaucoup. Donc c'est Speculum, ça se passait aux années jouées et donc on peut retrouver la troupe qui propose ce spectacle souvent, sûrement.
Il suffit de taper Speculum spectacle sur internet et vous tombez sur leur site. Et donc elles jouent pas mal à Paris, mais elles vont sûrement refaire une tournée bientôt.
Merci à vous deux pour cette recommandation culturelle. Anaïs, veux-tu nous parler?
Oui, moi je vais vous surprendre. Je vais parler de bande dessinée.
Wow.
Alors, je vais parler de deux trucs. Je vais faire vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La première BD, alors c'est pas tant que le sujet soit féministe, mais c'est plutôt l'auteur que je voulais mettre en avant. Donc la BD s'appelle Sous les bouclettes et elle est de Melaka et Gudule. Donc Melaka, c'est une autrice de bande dessinée et en fait sa mère Gudule est assez connue pour avoir écrit des textes pour les jeunes enfants. Voilà, littérature jeunesse, pardon. Et en fait, sa mère est morte d'un cancer il n'y a pas très longtemps, cancer du cerveau. Et du coup, Melaka a eu besoin de faire une bande dessinée pour faire son deuil. Et du coup, elle alterne elle raconte la maladie et le décès de sa maman. Et elle dessine aussi des souvenirs que sa mère lui a racontés sur sa vie. Donc, sa mère a eu une vie fantastique. Et du coup, voilà, c'est une très belle BD. Melaka, c'est une fille géniale. Elle a un blog depuis des années. Elle a fait partie des précurseurs et des précurseuses des blogs BD. Elle a fait de l'auto-édition il y a quelques années où elle a elle-même lancé sa... Enfin, elle s'est auto-éditée. Et là, elle est en train de lancer un magazine pareil de bande dessinée en ligne qui s'appelle Mazette. Et le financement participatif est encore en cours sur Ulule. Donc voilà, bon, une meuf qui lance un magazine indépendant avec de la bande dessinée dedans. Moi, je suis plutôt pour. Voilà. Et la deuxième recommandation culturelle que je voulais faire, c'est une bande dessinée qui s'appelle Pénis de table. Donc rien que le titre, en fait, j'adore les jeux de mots un petit peu à la con, donc là j'étais servie. Donc Pénis de table, c'est une bande dessinée de Cookie Calcaire. Donc je l'ai pas encore fini, mais déjà c'est très bien. Et en fait, c'est 7 mecs qui racontent tout sur leur vie sexuelle. Donc en gros, il y a plusieurs chapitres. En fait, donc l'auteur Cookie Calcaire a réuni autour de lui 6 potes qui en plus ont plusieurs, certains en couple, certains pas en couple, certains en polyamour, etc., etc. Certains bi, certains hétéros, certains homo. Enfin, il a vraiment, il y a plusieurs profils représentés, et ça parle de taille de pénis, ça parle de circoncision, ça parle de fantasmes, et ça parle de plein de trucs. Et du coup, c'est cool, parce que enfin, ça permet de se rendre compte que les hommes aussi ont des... Comment ? Y a des ils ont forcément des problèmes et des clichés qui les touchent aussi, notamment sur la partie sur la taille du pénis, est assez drôle. Et donc voilà, je vous conseille cette bande dessinée.
Rappelle-nous, la seconde s'appelle Pénis de table.
Pénis de table.
Et la première.
Et la première, c'est Sous les bouclettes de Melaka et Gudule.
Ça marche, merci beaucoup. Reste ma recommandation culturelle à moi. Moi, j'ai un peu triché, mais c'est une bonne manière aussi pour moi de conclure la saison. Ma recommandation culturelle, c'est un podcast audio qui s'appelle Ménage-toi, Simone.
Oh bravo, nous.
Je voulais vous féliciter, nous féliciter. Je trouve. C'est vraiment génial. Du coup, depuis janvier, on a quasiment plus de 6 heures d'enregistrement où on cause de plein de trucs, on a plein de recommandations.
C'est clair.
Voilà, donc je suis très fier de ce qu'on a fait. J'espère qu'on continuera l'année prochaine. Et puis voilà, je voulais, typiquement, ce qu'on a réussi à faire, c'est ce que j'aime voir, quoi. C'est des personnes qui incarnent, voilà, ce qu'elles souhaitent porter, ce qu'elles souhaitent défendre. Et du coup, à leur manière, nous, on a choisi donc la radio. À leur manière, voilà. Partage, discute, débatte et promeuve voilà, des convictions très fortes que l'on défend et que l'on défendra toujours. Donc voilà, merci à vous. Et j'espère qu'on continuera l'année prochaine avec vous. Puis si vous pouvez pas, bah, on espère aussi recruter de nouvelles personnes. Ce sera le réseau de Simone est toujours ouvert à d'autres adhérents, d'autres adhérentes. Et puis bien sûr aussi, on peut s'organiser pour accueillir de nouvelles personnes dans le studio de Radio Campus Tours. En effet, on reviendra en septembre, et puis toujours sur une mensuelle d'1h30, diffusée le samedi. Et puis voilà, on peut espérer aussi que ça s'améliore, qu'on ait plus de jingle ou je sais pas, qu'on ait plus de choses comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis moi, j'étais très fier de faire ça avec vous, et j'en ferai la promotion aussi longtemps que je le pourrai.
Oh,
ouais. Bah merci à toi, Merlin, d'avoir présenté chacune de nos émissions avec panache et brio,
ouais.
D'avoir été présent sur chacune des émissions, de t'être occupé de la technique, d'avoir été toujours présent, etc.
Merci.
Donc merci à toi.
Oui.
On est quand même trop fort et forte. Bon,
c'est la fin, du coup, il me reste plus qu'à vous dire où est-ce qu'on peut se retrouver. Donc là, le réseau de Simone prend des vacances, et puis Ménage-toi Simone également. On revient en septembre, mais d'ici là, bah, du coup, on a toujours nos réseaux sociaux, la page Facebook qui s'appelle Le Réseau de Simone, le blog, c'est sur wixsite.com, et c'est Le Réseau de Simone, tout simplement. On a, au moment où vous, le jour où vous écoutez en direct cette émission, on est le 22 juin, et il y a OLF, Oser le Féminisme, qui fait le féminisme. Au centre Giraudeau, donc on vous invite à y aller, c'est toute l'après-midi, donc c'est au centre Giraudeau à Tours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh ben, on vous retrouvera, les volontaires de rêve, à Terre du Son, on a parlé un peu plus tôt. Et voilà, restez branchés, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour faire la rentrée avec nous et construire de nouveau plein de beaux projets autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, on n'a plus qu'à se dire au revoir, alors. Et puis, un bel été. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir d'avoir partagé nos podcasts, de l'avoir diffusé, d'en avoir parlé autour de vous. Et puis, on se dit à la rentrée.
Bonnes vacances. Bonnes vacances.
Profitez bien. Peut-être à l'année prochaine.
Allez. Merci,
on y
Mathis.
Croit.
Salut.
Ah, les bonnes femmes.
Je préfère voir tes fesses que ta gueule. Ils sont plus agréables à regarder.
Justement, est-ce que je pourrais avoir une note de vos petites putes asiatiques ? La mienne est morte.